pourquoi ai-je choisi ce sujet? Parce qu'il est d'un intérêt absolument extraordinaire. En fait, le portrait de la Sainte Vierge que nous voyons ici, ou ici, ou ici, le portrait de la Sainte Vierge par elle-même, comme j'essaierai de vous l'expliquer, sur le poncho d'un prince aztèque, Juan Diego, ce portrait, c'est l'image de la Sainte Vierge, et comme le sanctuaire, archeiro poétique, comme disent les Grecs, c'est-à-dire non faite de main d'homme. Et j'essaierai de vous le prouver. Alors, pourquoi à notre époque? Je veux dire, c'est quand même extraordinaire que ce n'est qu'en 1898 que par la photographie on a pu découvrir le sanctuaire, et ce n'est qu'au XXe siècle qu'on a pu, par des procédés dont je vais vous parler, des procédés scientifiques très poussés, dont beaucoup de la NASA, qu'on a découvert beaucoup de choses sur l'apparition de la Sainte Vierge qui a eu lieu en 1531. C'est-à-dire que le sanctuaire, quasiment 2000 ans après, et la Sainte Vierge, 500 ans après, montrent non seulement leur authenticité, mais tout ce qu'ils ont de miraculeux. Il a fallu que la science conforte la foi. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre ces preuves scientifiques? Parce que Dieu savait très bien, lui qui sait tout et qui est hors du temps, que notre époque serait celle de l'apostasie. Ça a été, c'est-à-dire de la négation de la foi par les plus hautes autorités de l'Église. Cela a été prédit aussi bien par Saint Paul que par le Christ lui-même. Alors, je vais vous donner le plan avant de commencer vraiment. Alors, grand 1, les apparitions de Notre-Dame à Juan Diego. Donc là, petit A, qui est Juan Diego, je vais le présenter. Petit B, je ferai le récit des apparitions. Ce récit est appelé Nican Mopewa en Nahuatl. Je demande dès maintenant que s'il y a des aspects dans cette salle, ils me pardonnent mon Nahuatl qui n'est pas très excellent. Bon, alors, les preuves scientifiques de l'authenticité de son portrait miraculeux. Je montrerai petit A que le tissu du poncho de Juan Diego est inaltéré après 500 ans. Petit B que l'image n'est pas peinte. Petit C, je parlerai du miracle dans le miracle, c'est-à-dire le foetus lumineux. Petit D, du nombre d'or, qui est la structure même du portrait. Et petit E, des yeux de la Sainte Vierge qui sont toujours vivants. Et enfin, en troisième et dernière partie, je montrerai la conjonction des symboles. Petit A, le nom lui-même de Guadeloupe. Petit B, la couleur bleu turquoise du manteau, vous verrez. Petit C, les broderies de la robe rose de la Sainte Vierge. Et en particulier, le Nahui Olin, qui est la constellation du lion. Et enfin, petit D, les étoiles du manteau qui reflètent les constellations du ciel. Et enfin, en conclusion, le sens de ce portrait. Donc, j'en arrive aux apparitions de Notre-Dame à Juan Diego. Ce portrait de la Sainte Vierge de Guadeloupe est l'unique portrait authentique de la Sainte Vierge, puisque c'est elle et elle seule qui l'a imprimé sur le poncho de Juan Diego. Donc, de même que le visage du Christ sur le linceul de Turin, on sait que c'est le vrai visage de notre Seigneur, puisque c'est celui de sa passion et de sa résurrection. Alors, il apparaîtra après aux apôtres. La Vierge Guadeloupe, c'est l'unique portrait de la Sainte Vierge puisqu'elle l'a imprimé elle-même. C'est vraiment extraordinaire. Et quant à Juan Diego, c'est le premier saint indien, le premier saint aztèque. Il a été canonisé par Jean-Paul II en 2002, comme nous le verrons tout à l'heure. Dans les deux cas, c'est grâce aux découvertes scientifiques les plus récentes qu'on a pu saisir toute la grandeur de ce miracle et son authenticité. Et nous verrons donc que les preuves scientifiques sont évidentes et qu'on ne peut absolument pas nier. On peut dire qu'on n'y croit pas, mais on ne peut pas nier l'évidence. Donc j'en arrive maintenant aux apparitions de Notre-Dame à Juan Diego. Qui est Juan Diego? Beaucoup de gens ont cru, parce que Juan Diego est très très humble, qu'il était un pauvre paysan. C'était un prince aztèque, mais c'est vrai qu'on a cru qu'il était pauvre parce qu'ayant été évangélisé par les franciscains, il cherchait à les imiter et il a vendu la plus grande partie de ses biens et donc il s'habillait très pauvrement. Alors Juan Diego est un prince aztèque, le troisième enfant de Netzahualpilli, l'empereur d'Alcohuacan Texcoco et de la princesse Azcapotzalli. Excusez-moi, mais les noms nahuatl ne sont pas très faciles à prononcer pour une française. Il est né en août 1474 à Cuautitlán, dans le quartier de Tléhiacac, près de Mexico, et est mort le 15 mai 1548, à près de 74 ans. Donc, le futur Juan Diego, parce que Juan Diego, c'est son nom de baptême, son nom chrétien, s'appelait Cuautlatoatzin, qui signifie en nahuatl, la langue aztèque, celui qui parle comme un aigle. Alors, vous verrez tout au long de cette conférence qu'il n'y a pas de hasard. Absolument tout est providentiel. Tout est voulu ou permis par Dieu pour notre plus grand bien. Et vous verrez que ce soit les dates ou les symboles, ils ont tous un sens. Parce que le fait qu'il s'appelait Cuautlatoatzin, c'est-à-dire celui qui parle comme un aigle, je vous rappelle que son nom de baptême, c'était Juan. Or, Juan, c'est Jean. Et que Saint Jean a pour symbole l'aigle. D'autre part, en nahuatl, l'aigle a pour sens celui qui parle vrai. Or, effectivement, Juan Diego est un homme vrai, et en plus, un saint. Enfin, naturellement, on ne peut pas être saint sans dire la vérité et sans être vrai tout au fond de soi-même. Donc, le futur Juan Diego fut élevé par son oncle paternel, Juan Bernardino, et reçut une éducation princière. Il bénéficia d'une formation militaire et obtint le grade de chevalier aigle. Il suivit aussi un enseignement religieux et devint prêtre de Tonantzin et de Quetzalcoatl. C'est très important. Pourquoi? Parce que Quetzalcoatl, c'était une sorte de dieu chargé de créer une humanité nouvelle. Or, Juan Diego sera le témoin de la Sainte Vierge, et en tant que témoin de la Sainte Vierge, il est le témoin de son fils, qui effectivement est le fils de l'homme, le fils de Dieu, et veut créer une humanité nouvelle dans son corps mystique, une humanité sanctifiée et même divinisée. Parce que comme disent les pères de l'Église, Dieu s'est fait homme pour que nous devenions Dieu. Alors naturellement, nous ne sommes pas Dieu par identification, mais par grâce, ce qui nous différencie des bouddhistes, qui croient que tout est Dieu. Quant à Tonantzin, qui était-ce? Tonantzin en nahuatl veut dire « notre mère ». Tonantzin était donc une sorte de déesse qui était la mère des dieux. Or, Juan Diego, en se convertissant, donc il était près de Tonantzin et de Quetzalcoatl, mais en se convertissant, non seulement il sera le témoin de cette humanité en Dieu, au vrai Dieu, mais il sera le témoin de la mère de Dieu et non plus de la mère des dieux. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Vous verrez que dans tout ce que je vais vous dire, qu'il y a un perpétuel renversement de la religion aztèque à la religion chrétienne. La religion chrétienne, ou plutôt la religion aztèque, serait l'inversion de la religion chrétienne, où la religion chrétienne donnerait le vrai sens à des coutumes barbares aztèques. Mais ces coutumes barbares, il leur donnait un sens bienfaisant. Or, il se trouve que cette Tonantzin, cette mère des dieux, était vénérée sur la colline de Tepeyac, près de Mexico, sur cette même colline où apparaîtra la Sainte Vierge, la mère de Dieu, de la vraie vie. Et pour continuer sur la vie de Juan Diego, tous les nobles avaient au moins deux épouses auxquelles ils pouvaient joindre des concubines. On ne connaît pas de concubine à Juan Diego, mais on sait qu'il eut deux femmes, Papatzin, devenue après son baptême Béatrice, dont il eut trois enfants. Leurs noms de chrétiens sont Miguel, Juan Cortés et Maria de Guadalupe. Je dis leur nom de chrétien, parce que vous verrez, toute la famille s'est fait baptiser. Et il restera avec sa seconde épouse après son baptême, parce qu'il fallait qu'il n'en choisisse qu'une. Et cette seconde épouse s'appelait Malintzin. Elle est devenue après son baptême Maria Elisa. Et elle était sa cousine germaine, puisqu'elle était la fille de son oncle Juan Bernardino. Donc il l'a connue depuis son enfance. Et sur une fille, Juana Maria. Et on a retrouvé récemment leurs descendants. Et Juan Diego maria sa première épouse avec son frère Ixchil-Xochitl. Et Juan Diego fut baptisé en 1519, donc avec sa femme, ses frères et sœurs, et des gens de la cour et du peuple, en présence même de Cortés, le fameux conquistador mexicain. Et son parrain aurait été Diego de Ordaz, d'où son nom de Diego. La femme de Juan Diego, avec qui d'ailleurs depuis son baptême il vivait en perpétuelle continence, mourut en 1529 donc 2 ans avant les apparitions en 1531. Et Juan Diego, elle a à nouveau habité auprès de son oncle. Comment se fait-il que Juan Diego et sa famille furent baptisés ? Grâce à des franciscains missionnaires. En effet, après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb le 12 octobre 1492, donc, comment se fait-il qu'il y ait eu des missionnaires franciscains ? Il y en avait quelques dominicains, mais ils étaient beaucoup plus durs et heureusement, il y avait beaucoup plus de franciscains et ils étaient beaucoup plus appréciés par la population. Parce que lorsque Hernán Cortés, donc ce conquistador espagnol qui a débarqué au Mexique le vendredi saint, le 22 avril 1519, et qui s'est emparé de Mexico le 13 août 1521, en fait, il s'est emparé de Tenochtitlan, la capitale des Aztèques, il l'a détruite, alors qu'elle était splendide, et il l'a nommée Mexico. Mexico qui est à 2278 mètres d'altitude, vous verrez, ça aura une certaine importance après. Donc Cortés, dès qu'il s'est emparé de Tenochtitlan et qu'il en a fait Mexico, a demandé à Charles Quint de lui envoyer des religieux pour évangéliser les Aztèques. Et les franciscains furent si remarquables que de 1521 à 1531, donc en seulement 10 ans, 9 millions d'Indiens sur les 25 millions d'habitants du Mexique se convertirent au catholicisme. Et ce n'était pas du tout, comme on l'a raconté, par une imposition « je te tue ou tu meurs »,« je te convertis toi ou tu meurs » ou « je te tue ». Non, non, c'était par la persuasion et parce que les Aztèques en avaient plus qu'assez de leur sacrifice sanguinaire. Chaque année, il y avait au moins 20 000 enfants et jeunes qui étaient prisonniers parce qu'on faisait la guerre rien que pour pouvoir les capturer, et on leur arrachait le cœur. On leur arrachait le cœur, non pas par méchanceté, mais parce que les Aztèques étaient persuadés que le soleil s'effondrerait, s'éteindrait, s'il n'y avait pas du sang qui le régénérerait. Autrement dit, le soleil avait besoin de sacrifices humains pour pouvoir continuer à rayonner sur les vivants. Alors, et il y a des années, comme par exemple en 1487, où il y a eu 80 à 100 000 Indiens qui sont morts en un an, vous rendez compte, sacrifiés, et c'était toujours des enfants et très jeunes, et des gens très jeunes, parce qu'il fallait qu'ils soient très purs. Et pourquoi il y a eu, en cette année 1487, 80 à 100 000 Indiens sacrifiés ? C'était pour fêter l'inauguration du temple de Tenochtitlan, qui était voué au dieu Huitzilopochtli, dieu de la guerre et du soleil. Alors, là encore, regardez le renversement. Les franciscains ont appris aux Aztèques que ce n'était pas les sacrifices humains qui allaient sauver le soleil, qui était vu comme un dieu, mais c'est au contraire le vrai dieu qui allait sauver les hommes. Le vrai dieu qui s'était incarné et le verbe incarné qui était crucifié pour le salut des hommes. Donc c'est une véritable inversion, si on peut dire, de la rédemption chez les Aztèques, parce que les Aztèques pensaient que c'était le sang versé par l'homme qui sauvait la vie d'un dieu, alors que pour les chrétiens, c'est Dieu qui sauve l'homme par son incarnation, sa passion rédemptrice et sa résurrection. Alors, comment sait-on tout le récit des apparitions que je vais vous donner ? Grâce au Nican Mopoua. Cela veut dire en nahuatl, voici le récit. Je ne peux pas faire plus simple. Donc ce Nican Mopoua, voici le récit, a été écrit vers 1540 par Antonio Valeriano, qui était le neveu de l'empereur aztèque. Étant né en 1520, il n'avait que 11 ans quand les apparitions se sont produites en 1531. Et il a très souvent rencontré Juan Diego et il a pris par écrit le témoignage de Juan Diego qui lui a tout raconté en détail. Et il avait 28 ans à la mort de Juan Diego en 1548. Et Juan Diego lui a confirmé naturellement la justesse de tout ce qu'il avait écrit. Parce que Antonio Valeriano avait appris l'espagnol et le latin à 16 ans au collège franciscain de Santa Cruz, Sainte-Croix, de Tlatelolco. Et il a transcrit son témoignage en nahuatl, mais non pas avec les signes pictographiques, c'est-à-dire les dessins, comme des pictogrammes, ou des idéogrammes, si vous voulez, de cette langue, mais avec les caractères de l'écriture latine. C'est le premier document qu'on a en nahuatl écrit avec l'écriture latine. Alors, le langage est très poétique. Les Aztèques appelaient la poésie « flor y canto », le « fleur et chant », car les fleurs et les chants sont le langage de Dieu. Et la Sainte Vierge annonce « voici le récit », c'est un peu comme on dirait « voici la bonne nouvelle », « voici l'évangile », mais l'évangile de la Sainte Vierge, quelle est la bonne nouvelle qu'elle annonce? Le fait qu'elle est la mère de tous les hommes, puisqu'elle est la mère de Jésus, elle est la médiatrice de notre Seigneur, elle est la mère pleine d'amour qui va nous aider, qui va nous guider vers son Fils. Alors Valeriano, donc cet auteur de Voici le récit, de Nicole Mopowa, fut professeur, puis vice-recteur du Collège des Franciscains, puis devint juge et gouverneur de Mexico pendant 35 ans, et il mourut en 1605 à 85 ans. Alors j'en arrive au récit des apparitions. Vous verrez qu'il y a eu 5 apparitions, comme les 5 plaies de Notre Seigneur, du 9 décembre, du samedi 9 décembre 1531, premier jour de l'octave de l'Immaculée Conception. Donc, il y a eu 5 apparitions du samedi 9 décembre 1531 au mardi 12 décembre 1531. Alors, le samedi 9 décembre 1531, donc 12 ans après le baptême de Juan Diego, baptisé en 1519, Juan Diego, qui allait au moins 3-4 fois par semaine à la messe, c'était un homme extrêmement pieux, et depuis la mort de sa femme, il ne se consacrait qu'aux choses de Dieu, comme l'ont dit tous les témoins. Il devait faire 15 kilomètres à pied pour se rendre à la messe et 15 kilomètres à pied pour en revenir. Alors, il faisait encore nuit lorsque Juan Diego, qui avait à l'époque 57 ans, se dirige vers Tlatelolco, où il pouvait assister à la messe et avoir une instruction religieuse auprès des franciscains. Parce que bien qu'il ait été baptisé en 1519, il continuait à suivre une instruction religieuse. Et donc, il faisait 30 km chaque jour. Le soleil se lève tandis que Juan Diego arrive au pied de la colline de Tepeyac, à 5 km de Mexico. Et il entend un chant si mélodieux, si surnaturel, si inouï, au sens premier du terme, jamais entendu. Un chant si mélodieux, si surnaturel, si inouï, qu'il se demande s'il n'est pas au paradis, dans la terre fleurie dont parlaient les anciens. Et tout d'un coup, les oiseaux se taisent, comme recueillis, et il entend une voix très douce et très tendre qui l'appelle par son nom. Elle lui dit « Juanjin, Juan Diegojin, où vas-tu ? » Alors, il faut savoir que le djinn, c'est à la fois une sorte de diminutif affectueux, mais en même temps une terminaison qui exprimait la noblesse. Donc, la Sainte Vierge qui connaît tous les êtres humains lui dit « Juan Jin, Juan Diego Jin », c'est-à-dire « mon petit Jean » et en même temps « mon Jean très noble, où vas-tu ? » Et là, il voit une jeune fille de 15 ans environ, au visage de métis. D'ailleurs, comme elle est légèrement brune, les Aztèques l'appellent la Morenita, qui est la petite brune. Morena veut dire brune. Et cette jeune fille attend un enfant qui va bientôt naître. On le voit par l'ampleur de sa tunique, par son genou gauche un peu en avant, comme si une femme qui a un peu de mal au dos et qui s'appuie sur sa jambe, et sa ceinture à double pan remontée sur le ventre gonflé révèle qu'elle est enceinte. Et elle est d'une beauté et d'une douceur qui ne sont pas de la terre. Et le père Bruno Bonnet-Aimard dit qu'aucune traduction ne saurait rendre la nuance, alors là je lis le père Bruno Bonnet-Aimard, ne saurait rendre la nuance d'exquise courtoisie, de quasi-révérence, qui relève la familiarité contenue dans le suffixe nahuatl-jin. Et le Nican Mopowa, toujours ce fameux récit écrit par Valeriano, écrit à propos de ses vêtements. Les vêtements de Notre-Dame resplendissaient autant que les rocs escarpés de l'extrême pointe de la colline, qui, sous l'éclat de ses brillants rayons, prenait l'apparence de diamants. Les cactus, les nopales, toutes les plantes qui poussent là paraissaient transformées en gerbes d'émeraude, tandis que les troncs d'arbres et les branches semblaient faits d'or poli et que l'on eût pris le sol pour du jaspe diversement nuancé. Vous voyez, toute la terre était illuminée par la beauté de la Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge avait une allure si royale et paraissait si jeune, 15 ans donc, que Juan Diego, à sa question, « Écoute, mon petit enfant, le plus petit, où vas-tu ?» alors qu'il avait quand même 57 ans et elle l'appelle « mon petit enfant ». Juan Diego lui répond « Madame, mon enfant, ma reine, parce qu'à la fois elle était tellement jeune qu'elle était un peu comme une enfant, et en même temps elle était tellement majestueuse qu'il l'appelle ma reine, parce que la Sainte Vierge a... Je ne l'ai jamais vue, mais j'imagine qu'elle doit avoir un visage effectivement de reine et en même temps une sorte de douceur maternelle extraordinaire et un visage d'une pureté enfantine. Une pureté, comme disait Bernanos, qui vient de presque avant la naissance, avant Ève, disait Bernanos. Donc, il lui dit, Juan Diego dit à la Sainte Vierge, Madame, mon enfant, ma reine, je m'en vais aux affaires de Dieu. Qui se rendait à la messe et à l'instruction religieuse. Et la Sainte Vierge continue à parler à Juan Diego et lui dit « Sache et tiens pour certain, mon fils le plus petit, que je suis Marie, la toujours Vierge, mère du vrai Dieu, de celui par qui tout vit, le Créateur des hommes, le Maître de ce qui est tout autour et tout à côté, près de tout, nous dirions en tout, le Seigneur du ciel et de la terre. Je désire très ardemment, et c'est ma volonté, qu'en cet endroit, on me construise mon petit Théokali. » Alors, qu'est-ce que c'est Théokali en nahuatl? Vous voyez que je finis par savoir le nahuatl. Théokali en nahuatl signifie maison de Dieu. Théotl, ça rappelle un peu le théos en grec qui veut dire Dieu, et Kali, c'est la maison. Qu'est-ce que c'est que les maisons de Dieu, les théokalis? C'était les sanctuaires que les Mexicains élevaient à leur Dieu au sommet des hautes pyramides où ils immolaient les victimes humaines. Donc vous voyez là encore renversement de la providence, puisque dans cette maison de Dieu, c'est-à-dire dans cette église, dans cette chapelle que demande la Sainte Vierge, se célébrera le seul vrai sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice de notre Seigneur, qui du coup a supprimé les sacrifices humains. Naturellement, nous devons nous offrir en sacrifice de cœur et d'âme, c'est-à-dire offrir notre être en union au sacrifice de notre Seigneur, mais nous ne sacrifions pas des êtres humains, ça n'est pas du tout pareil. Donc la Sainte Vierge dit que dans cette église, là je le montrerai, je l'exalterai, je le donnerai aux hommes par la médiation de mon amour, de mon regard compatissant, de mon aide secourable, de mon salut. Je vous rappelle que la Sainte Vierge est médiatrice. C'est par elle que passent toutes les grâces. Et je suis persuadée que quand l'Église redeviendra ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, le prochain dogme sera Marie, co-médiatrice, avocate et co-rédemptrice de notre Seigneur. Il faudra applaudir le pape quand il le fera, pas moi. Donc, pour la construction de ce sanctuaire, de cette chapelle, la Sainte Vierge demande à Juan Diego d'aller voir l'évêque et de lui transmettre sa volonté. Dans toutes les apparitions de la Sainte Vierge, vous remarquerez, que ce soit Fatima, Lourdes, etc., qu'elle demande toujours à la personne à qui elle apparaît de voir le prêtre, l'évêque, et même éventuellement le pape quand les enfants, par exemple comme à Fatima, ont à lui confier un secret, ou à la Salette par exemple. La Sainte Vierge est respectueuse de la hiérarchie catholique à laquelle elle se soumet, et à qui elle soumet ceux à qui elle apparaît. Et puis, ce même samedi 9 décembre 1531, il y a une seconde apparition et qui a lieu le soir. Juan Diego s'est acquitté de sa mission, il est allé voir l'évêque. Cet évêque était basque-espagnol, il avait 63 ans, c'était un franciscain, il s'appelait Juan de Zumarraga. Et il fut tellement excellent qu'il a été nommé protecteur des Indiens, d'ailleurs, par Philippe II, le roi d'Espagne de l'époque. Donc, ce qui est assez normal, ceci dit, Juan de Zumarraga, donc cet évêque basque espagnol, ne croit pas un mot de ce que lui raconte Juan Diego. Alors, le pauvre Juan Diego repart et rend compte de son échec à la Sainte Vierge, qui donc lui apparaît le soir. Et la Sainte Vierge lui dit d'aller revoir l'évêque. Alors, comme Juan Diego lui est très humble, il lui dit qu'elle ferait mieux de s'adresser à un noble, estimé, connu, respecté, honoré, car, dit-il, bien qu'il soit noble, je vous le rappelle, je suis un homme de la campagne, un portefeuille, le plus rustre, le dernier du village. Un portefeuille, c'est-à-dire vraiment celui qui porte les plus lourds fardeaux. Et la Sainte Vierge lui répond, il est absolument nécessaire que ce soit toi, mon fils, toi le plus petit, et je t'ordonne que tu ailles de nouveau voir l'évêque. Pourquoi fallait-il absolument que ce soit Juan Diego qui aille voir l'évêque pour lui demander cette chapelle? D'abord, parce que Dieu et la Sainte Vierge ont un dessein particulier pour chaque personne, et donc ce n'est pas pour le voisin, mais d'autre part, parce que je vous rappelle que Juan Diego avait été le prêtre de l'ancienne religion de Tonantzin et de Quetzalcoatl, et il fallait qu'il puisse être le témoin de la nouvelle religion qui venait de se faire connaître au Mexique, c'est-à-dire de l'unique vraie religion, le catholicisme. Parce que quoi de mieux qu'un ancien prêtre qui se convertit à la vraie foi? Alors, Juan Diego promet à la dame d'accomplir sa volonté. Le lendemain, donc le dimanche 10 décembre 1531, alors que tout était encore dans la nuit, Juan Diego fait les 15 kilomètres à pied, entend la messe, puis se rend au palais de l'évêque. L'évêque l'écoute un peu plus longuement que la veille et lui dit de demander à la dame de donner un signe manifeste de son identité et de sa volonté. C'est normal. Alors, le dimanche 10 décembre 1531, c'est la troisième apparition qui a lieu le soir. Juan Diego revoit la Sainte Vierge, donc le dimanche au soir, et il lui dit qu'il avait vu l'évêque et que l'évêque demande un signe. Alors la Sainte Vierge lui dit, c'est bien mon petit enfant, tu reviendras ici demain pour porter à l'évêque le signe qu'il t'a demandé. Mais de retour chez lui, ou plutôt chez son oncle, Juan Diego découvre que son oncle est très malade. Donc le lundi 11 décembre, alors qu'il devait revenir voir la Sainte Vierge, il ne peut pas la retrouver parce qu'il doit aller chercher un médecin et rester toute la journée auprès de son oncle pour le soigner. Et quand vient la nuit, son oncle va encore plus mal et il demande à son neveu d'aller à Tlatelolco chercher un prêtre dès le lendemain matin. Je vous rappelle aussi que son oncle avait été baptisé, était très pieux également. Donc il demande à son neveu d'aller à Tlatelolco chercher un prêtre dès le lendemain matin afin qu'il puisse se confesser et se préparer à mourir. Alors nous en arrivons à la quatrième apparition qui a lieu le lendemain, le mardi 12 décembre 1531. Vous remarquerez qu'il y a eu deux apparitions le samedi et deux apparitions le mardi et une le dimanche soir. Encore dans la nuit, Juan Diego sort pour aller chercher un prêtre, donc très très tôt, si on peut dire, avant l'aube, pour aller chercher un prêtre. Et il fait un détour par rapport à son chemin habituel afin de ne pas être arrêté par la Sainte Vierge tant qu'il est pressé. Et il a raison, parce que son devoir d'État était d'aller chercher un prêtre pour l'extrême onction de son oncle. Mais la Sainte Vierge lui apparaît, parce que rien n'est caché aux yeux de la Sainte Vierge et de Dieu. Mais la Sainte Vierge lui apparaît et lui demande, « Qu'y a-t-il, le plus petit de mes fils? Où vas-tu? Vers où te diriges-tu ?» Et Juan Diego lui répond, « Ma petite, ma toute petite, ma reine, je te demande de me pardonner. Accorde-moi encore un peu de patience. » Et il lui dit qu'il transmettra son message à l'évêque le lendemain, mais qu'aujourd'hui, il doit aller chercher un prêtre et veiller sur son oncle, puisque c'est encore plus urgent. Alors la Sainte Vierge lui dit, très maternelle, « Mon petit, le plus petit, ce qui t'afflige, ce qui t'effraie, n'est rien. Que ton visage ne se trouble aucunement, non plus que ton cœur. Ne crains pas cette maladie, ni aucune autre épreuve. N'aie nulle angoisse, nulle peine. Ne suis-je pas là, moi qui suis ta mère? N'es-tu pas sous mon ombre, sous ma protection. Ne suis-je pas ta fontaine de vie? N'es-tu pas au creux de mon manteau, enserré dans mes bras? N'aie nulle angoisse, et que la maladie de ton oncle ne t'afflige pas, car pour l'instant, il n'en mourra pas. Vous remarquerez que quand la Sainte Vierge dit « N'es-tu pas sous mon ombre ?», on peut penser qu'il y a une allusion au fait que le Saint-Esprit l'a couverte de son ombre et que nous sommes tous sous l'ombre, la protection de la Sainte Vierge. D'autre part, quand elle dit « Ne suis-je pas ta fontaine de vie ?», elle est notre fontaine de vie puisqu'elle est la mère de la vie de celui par qui nous vivons, de celui qui a dit « Je suis la vie ». La voie et la vérité, mais je suis la vie. C'est dans Saint Jean 4, 6. Effectivement, Juan Bernardino, donc son oncle, a été guéri à l'instant même et il a lui-même eu une apparition de la Sainte Vierge qui l'a guéri et qui lui a dit d'aller se présenter à l'évêque et de lui donner le nom qu'elle veut, c'est-à-dire la Vierge Marie de Notre-Dame de Guadeloupe, mais je réinsisterai un peu là-dessus tout à l'heure. Donc, la Sainte Vierge dit à Juan Diego que son oncle va être guéri, et Juan Diego a confiance. Donc, puisqu'il a confiance que son oncle va être guéri, du coup, il ne retourne pas auprès de son oncle, et il demande à la Sainte Vierge le signe voulu par l'évêque. Notre-Dame lui dit alors d'aller au sommet de la colline du Tepeyac, où était adorée autrefois Tonantzin, la mère des dieux aztèques, d'y cueillir des fleurs et de les lui apporter, alors qu'on était en décembre, à 2250 mètres d'altitude, que c'est l'hémisphère nord, qui fait donc très froid et qu'il n'y a pas de fleurs à cette époque-là. À cette époque-là, il n'y a que des cactus. Or, Juan Diego, là où il n'y avait que chardon et épines, Juan Diego découvre de magnifiques fleurs, des fleurs de la région de Castille, en particulier des roses, qui embaumaient et brillaient sous les gouttes de rosée. Il paraît que ce sont des fleurs d'une couleur, enfin c'est dit dans le Nikan Mopowa, d'une couleur inconnue sur cette terre. Alors il a dit que c'était comme des roses de Castille et des fleurs, mais que ça dépassait infiniment la beauté des fleurs qu'il avait pu voir. Il en fait une gerbe qu'il place dans sa tunique, dans son poncho. Cette tunique était faite en ayate, qui est une simple pièce de tissu en fibre d'agave. L'ayate, c'est une fibre d'agave, de maguey, on pourrait dire de cactus, une fibre extrêmement légère. Puis, mais je dis poncho parce que nous voyons mieux, nous, ce que c'est-à-dire il y a juste un pan devant, un pan derrière et puis un trou pour la tête, c'est très très simple. Donc, il fait une gerbe de ses fleurs. Et à ce moment-là, quand il redescend de la colline, il revoit la Sainte Vierge, c'est donc la cinquième apparition, et là la Sainte Vierge dispose les fleurs dans la tunique, le poncho, parce que le poncho est assez large, et puis Juan Diego fait une sorte de nœud pour que les fleurs ne tombent pas, et il s'en retourne voir l'évêque. Et la Sainte Vierge lui dit, « Mon fils le plus petit, ces fleurs variées sont la preuve, le signe que tu porteras à l'évêque. » Mais lorsque Juan Diego retourne au palais de l'évêque, les serviteurs ne veulent pas l'introduire auprès de celui-ci et se moquent de lui. Ils le font attendre une heure et demie. Et le pauvre Juan Diego reste debout, la tête lâche, appuyé contre un mur. Et puis, les serviteurs, à force de se moquer de lui, ça était donc proche de lui, ils sentent un parfum extraordinaire. Et ils remarquent qu'il a fait un nœud sur son poncho, et il se dit, il se demande ce que c'est, et puis il voit une tige qui dépasse du manteau. Alors il tente de tirer sur cette tige, mais ils n'y parviennent pas. Alors très intrigué à la fois par le parfum de ses fleurs et par cette tige qui n'arrive pas, ils finissent par dire à l'évêque Juan Diego attend et qu'il a quelque chose d'extraordinaire dans son poncho. Alors l'évêque dit au serviteur d'appeler Juan Diego. Alors Juan Diego, devant l'évêque, déploie alors son poncho, les fleurs tombent, et que voit-on sur la tunique, ce portrait de la Sainte Vierge. Alors tout le monde se met à genoux, l'évêque y compris, émerveillé devant ce visage devant ses vêtements et devant ce portrait absolument unique qui, comme nous allons le voir, n'était pas peint, enfin, rien de naturel. Et la Sainte Vierge a donc les mains jointes, les yeux baissés, elle a une attitude de prière, d'adoration, et elle est recouverte d'un voile constellé de 46 étoiles d'or. Enceinte, car elle nous donne notre Seigneur, elle a un visage très doux et un regard d'une tendresse si humaine et surnaturelle à la fois que le prélat et tous les gens qui étaient là, vous verrez plus loin qui, sont bouleversés donc et s'agenouillent. Alors à ce moment-là, Monseigneur de Soumaraga demande pardon à la Sainte Vierge de n'avoir pas immédiatement réalisé sa volonté. Et le Père Bonnet et Marre décrit ainsi Notre-Dame de Guadeloupe. Elle avait un beau visage de jeune fille, d'une merveilleuse beauté, un peu brun, éclairé par un délicieux sourire maternel. Elle avait les mains jointes et la tête inclinée à droite, couverte d'un voile où rayonnaient des étoiles d'or et qui tombaient jusqu'aux pieds. Elle a la taille d'une enfant de 15 ans et se dresse sur un croissant de lune tout noir sur lequel elle pose le pied droit. Alors, vous remarquerez, sur lequel elle pose le pied droit, chaussé de gris cendré. Vous remarquerez que c'est la description de la Vierge de l'Apocalypse. Dans les versets 12, 1 à 2, un grand signe parut dans le ciel, une femme vêtue de soleil, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Verset 14. Donc la Sainte Vierge éclipse le soleil. Je continue la description du Père Bonnet et Marre. La Sainte Vierge éclipse le soleil dont les rayons l'entourent comme s'il jaillissait de son propre corps. Les uns grands et droits comme des épées, les autres en forme de flamme. Et elle est soutenue par un ange cariatide que l'on voit jusqu'à la ceinture, porté par des ailes d'aigle à demi déployées et dont les pieds semblent se perdre dans la nuée qui nimbe toute la vision. Là, vous voyez encore, l'ange est porté par des ailes d'aigle. Or, je vous rappelle que Quetzalcoatl était l'aigle et que Juan Diego, c'est également celui qui parle en aigle, comme un aigle. Et le soleil qui entoure la Sainte Vierge a 129 rayons d'or. Alors l'évêque va garder la tunique, qui était comme une sorte de manteau de robe superposée violette. L'évêque va garder la tunique de Juan Diego et la met dans son oratoire. Et l'évêque demande à Juan Diego de rester pour la nuit à l'évêché, car il veut cette fois-ci entendre tout son récit, et il dit à Juan Diego qu'il lui demande de le conduire le lendemain afin de voir là où la Sainte Vierge est apparue. Et là, donc, précisément où elle veut qu'on construise une église. Alors, le mercredi 13 décembre 1531, Juan Diego indique à l'évêque l'endroit où la Sainte Vierge lui est apparue et veut qu'on lui construise cette église. Eh bien, l'évêque commande aussitôt la construction du sanctuaire qui, achevé 2 ans après, en 1533, a accueilli le portrait de celle qui a dit, donc à Juan Bernardino, qu'elle voulait qu'on l'invoque comme la parfaite et toujours Vierge Sainte Marie de Guadeloupe. Parce que je vous ai dit que quand la Sainte Vierge a guéri Juan Bernardino, elle lui a dit d'aller voir l'évêque, de lui dire que c'était elle qui l'avait guéri, et elle lui a dit, il faudra que l'évêque et les Mexicains m'appellent la parfaite et toujours Vierge Sainte Marie de Guadeloupe. Alors pourquoi ce nom de Guadeloupe? Il a 2 sens. Premièrement, en nahuatl, c'est Coatlaxope. Qu'est-ce que ça veut dire Coatlaxope? Coa en nahuatl veut dire serpent. Tla veut dire le, et xope veut dire écraser. Donc Coatlaxope veut dire celle qui écrase le serpent. Et je vous rappelle que dans la Genèse 2,15, verset 15, la Sainte Vierge écrase la tête du serpent. Et il nous est dit que c'est elle qui va vaincre non seulement le démon, mais toutes les hérésies qui est le langage du démon, les hérésies. Donc, la Sainte Vierge se nomme elle-même celle qui écrase le serpent, donc elle se donne ce nom de Nahuatl, Coatlaxope. Je vais vous le redire pour ceux qui voudraient noter, donc ça s'écrit C-O-A-T-L-A-X-O-P-E-U-H. Mais en même temps, Guadeloupe, c'est un nom espagnol. Guadeloupe, c'est un pèlerinage très important en Espagne, dans la région d'Estremadure. Pourquoi? Parce que le pape Grégoire le Grand, avait une statue de la Sainte Vierge, et un jour, c'était donc 6e, 7e siècle, quelque chose comme ça, un jour, il y a la peste et rien ne vient à bout de la peste. Alors, le pape Grégoire le Grand prend la statue de la Sainte Vierge et part en procession. Donc le premier avec la Sainte Vierge qui commandait, si on peut dire, la procession. Et la peste s'arrête. Et puis finalement, cette statue a été égarée pendant 600 ans. Et c'est un bouvier, Gilles Cordero, qui, pour aller retrouver une vache qui s'était un peu perdue, a retrouvé cette statue. Et maintenant, depuis lors, donc depuis 1326, il y a ce pèlerinage très fameux en Espagne. Parce que vous remarquerez que la Sainte Vierge essaie toujours d'allier les symboles nahuatl et le langage nahuatl et les symboles espagnols et le langage espagnol et le langage chrétien. Alors, ce n'est pas du tout une inculturation au sens, parfois, hélas, de notre époque où c'est nous qui bradons notre religion au profit des religions du pays. Par exemple, en Inde, je ne sais pas si vous savez que certains prêtres récitent des formules hindoues, par exemple le fameux « tatouane ainsi, tu es cela », etc. Ou bien en Afrique, il y a parfois un syncrétisme vaudou-christianisme. Non. La Sainte Vierge, elle fait tout pour remplacer l'ancienne religion et mettre à sa place l'unique vraie religion. Je veux dire, ce mélange des deux cultures n'est pas un mélange d'inculturation, mais c'est simplement d'un point de vue psychologique pour que les Aztèques voient que la Sainte Vierge ne les méprise pas, mais qu'au contraire, elle leur montre la voie du vrai Dieu. Alors, Juan Diego, après les apparitions, alla habiter près de la chapelle où se trouvait le vrai portrait de Notre-Dame et s'en fit le héros. À la fois, héros naturellement H-E-R-A-U-T, puisqu'il n'a cessé de raconter, non pas par l'auréole, mais par hommage à la Sainte Vierge, de raconter ses apparitions. Et en même temps, on peut dire héros H-E-R-O-S, parce que ce devait être lassant de toujours raconter ses apparitions. Je pense qu'il aurait préféré souvent rester prier, parce qu'il était très contemplatif. Et donc, Juan Diego a été le héros de la Sainte Vierge pendant 17 ans, jusqu'à sa mort, à 74 ans, le 30 mai 1548. Et il s'est fait construire une toute petite maison, donc près de cette chapelle, pour pouvoir tout le temps admirer, vénérer le portrait de la Sainte Vierge. Et il a demandé qu'on lui fasse une copie de ce tableau. Il l'a offert à son fils, et chose très curieuse, cette copie s'est retrouvée, je vous le donne en mille, dans la chambre de Jean-Paul II au Vatican. Nous verrons que Jean-Paul II avait une immense dévotion pour Notre-Dame de Guadeloupe. Et donc, comme il avait une grande dévotion pour l'Eucharistie, l'évêque a permis à Juan Diego de communier trois fois par semaine, ce qui était rarissime à l'époque, où on ne communiait que deux, trois fois par an au maximum. Et plus tard, vers 1544, donc 4 ans avant sa mort, l'évêque de Sumaraga demanda à Juan Diego de le conduire à l'endroit des 4e et 5e apparitions. Et comme Juan Diego eut quelques difficultés à retrouver l'endroit, c'était en 1531, beaucoup de temps avait passé, une source jaillit et donne aujourd'hui encore une eau miraculeuse, une eau qui guérit les maladies du corps et de l'âme. Et d'ailleurs, Notre-Dame de Guadeloupe a accompli énormément de miracles, dont d'ailleurs c'est ça aussi qui a permis la béatification puis la canonisation de Juan Diego. Mais en dehors de cela, un simple exemple, l'amiral Doria avait une copie du portrait de Notre-Dame de Guadeloupe dans son navire pendant la bataille de Lépante, le 7 octobre 1571. Et vous savez que à cette bataille de Lépante, la flotte chrétienne, si on peut dire, était commandée par Don Juan d'Autriche. Contre qui? Contre les Ottomans. Et c'est la prière du rosaire et cette copie du portrait de Notre-Dame de Guadeloupe dans le navire de l'amiral Doria qui a permis le succès de Lépante. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le 7 octobre a été proclamée la fête du rosaire. Et cette copie avait été renvoyée à l'amiral Doria par le roi Philippe II d'Espagne, vous voyez. Et elle existe toujours, et elle est maintenant au-dessus de l'autel de l'église Santo Stefano à Aveto, en Italie. Alors, je vous disais que Jean-Paul II avait dans sa chambre la copie du portrait Notre-Dame de Guadeloupe, mais la copie qu'avait le fils de Juan Diego, reçue par son propre père. Et Jean-Paul II disait en effet en 1978, « Je me sens attiré par cette image de Notre-Dame de Guadeloupe, car son visage est plein de tendresse et de simplicité. Il m'appelle. » Et il a consacré une chapelle à Notre-Dame de Guadeloupe avec son portrait le 12 mai 1992 dans la basilique Saint-Pierre, à gauche de la tombe de Saint-Pierre, pour ceux qui se rendraient à Rome. Et enfin, c'est Jean-Paul II toujours qui a demandé que la fête de Notre-Dame de Guadeloupe pour toute l'Église soit proclamée le 12 décembre. Tous les 12 décembre, c'est la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, et à Notre-Dame de Paris, il y a une messe en mémoire de Notre-Dame de Guadeloupe. Et d'ailleurs, à Notre-Dame de Paris, donc très près d'ici, dans le bas côté nord de la cathédrale, une chapelle est dédiée à Notre-Dame de Guadeloupe, parce que des Mexicains de Paris ont demandé qu'une chapelle soit affectée à des célébrations, à l'intention de leur pays. Et sur le mur de cette chapelle Notre-Dame de Paris, il y a une mosaïque qui représente la Vierge de Guadeloupe, et elle est très vénérée, il y a beaucoup, beaucoup de cierges qui le montrent. Donc, Jean-Paul II, non seulement a fixé donc sa fête le 12 décembre et a appelé Notre-Dame de Guadeloupe étoile de l'évangélisation, mais également il l'a appelée patronne des Amériques. En effet, il y a toute une progression. Il y a d'abord Benoît XIV qui a nommé en 1754 Notre-Dame de Guadeloupe patronne du Mexique. Puis elle fut proclamée reine du Mexique en 1695. Puis par Saint-Pie X, en 1910, impératrice des Amériques et céleste patronne de l'Amérique latine. Et enfin, donc, Jean-Paul II l'a nommée patronne de toutes les Amériques, c'est-à-dire aussi bien du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud, et étoile de l'évangélisation, ce qui est une très belle image. Mais c'est Benoît XIV qui est donc le premier à accorder une liturgie, un office et une messe propre pour cette fête de Notre-Dame de Guadeloupe et qui a reconnu le 21 avril 1754 l'origine surnaturelle de ce portrait. Et je vous rappelle que Jean-Paul II a béatifié Juan Diego le 6 mai 1990 et l'a canonisé le 31 juillet 2002. D'ailleurs, Jean-Paul II est allé 5 fois à Guadeloupe. D'abord à son premier voyage apostolique en janvier 1979, quelques mois après son élection, le 6 mai 1990 pour la béatification de Juan Diego, en août 1993, en janvier 1999 et le 31 juillet 2002 pour la canonisation de Juan Diego. Et d'autre part, après Saint-Pierre, après la basilique de Saint-Pierre, c'est Notre-Dame de Guadeloupe qui est le premier sanctuaire marial du monde. Il y a 20 à 30 millions de fidèles qui viennent par an. C'est absolument énorme. Juste après Notre-Dame de Guadeloupe, le sanctuaire où il y a le plus de monde, c'est San Giovanni Rotondo, avec 8 millions de fidèles. Donc vous voyez la différence. Donc, Notre-Dame de Guadeloupe, c'est le plus grand centre de pèlerinage du monde catholique après Saint-Pierre. Alors, j'en arrive au grand 2, l'épreuve de l'authenticité du portrait de Notre-Dame de Guadeloupe, l'épreuve scientifique, parce que c'est la science qui confirme la foi, comme pour le Saint-Suaire. À notre époque, où la science est devenue quasiment une déesse, on ne veut pas croire quand ce n'est pas scientifique. Alors, tout d'abord, le tissu en ayat, le tissu du poncho de Juan Diego, c'est un tissu extrêmement fragile. L'ayat, qui est donc une fibre qui ressemble un peu donc à une fibre de maïs, de maguey, de cactus, etc., qui d'ailleurs constitue avec le maïs la plante nationale du Mexique. Là encore, ce n'est pas pour rien, de même que le Christ a pris le pain et le vin qui est ce qui est le plus courant. Eh bien là, la Sainte Vierge, elle s'est imprimée sur le tissu en ayat, qui était la plante la plus courante au Mexique. Donc ce tissu en alliage est tellement fragile qu'il ne dure jamais plus d'une vingtaine d'années. Or, ce tissu dure depuis bientôt 500 ans, puisque c'était en 1531. Alors, jusqu'en 1647, où on a mis une vitre, jusqu'en 1647, soit pendant plus de 100 ans, pendant 116 ans, il y a eu l'humidité, la pollution. Mexico est une des villes les plus polluées du monde. Il y a eu la ferveur des fidèles. Le Mexique, au Mexique, moi, je l'ai vu moi-même, les fidèles viennent embrasser les portraits, les statues, ils sont extrêmement démonstratifs. Imaginez tous les baisers sur le poncho. Ils viennent frotter de linge. Ils apportent leur linge, leur mouchoir, etc., pour les frotter sur le portrait, des médailles, enfin tout ce qu'ils peuvent trouver, même les lances des enfants, pour qu'il n'arrive pas de maladie aux enfants. Bon, ensuite, imaginez les cierges qui étaient tout autour, et Callahan, qui est un scientifique, nous en parlerons plus loin, a calculé qu'un seul cierge produit 600 watts, ce qui est énorme, et la lumière ultraviolette fane les couleurs. Normalement, or ce poncho, enfin le portrait de la Sainte Vierge sur le poncho et le poncho lui-même est resté intact. D'ailleurs, ce poncho, autre miracle, a la température humaine, c'est-à-dire entre 36,6 et 37, constamment. Je veux dire, nous, quand on a un vêtement, qu'on le dépose ne serait-ce qu'une heure quelque part, il n'a pas notre température. Et bien là, depuis 500 ans, il a la température humaine, parce qu'il est toujours vivant, comme le portrait lui-même. Et ce portrait est vraiment miraculeux dans sa résistance, puisque en 1791, en nettoyant le cadre en argent de l'image miraculeuse à l'eau forte, un peu de ce liquide a coulé sur la toile. Or, la solution comprenait 50% d'acide nitrique concentré et autant d'eau, et normalement, un tel liquide sur une toile végétale aussi fragile aurait dû provoquer des déchirures et des dégâts considérables, crever complètement la toile. Or, il n'en fut rien. C'est vraiment extraordinaire. De même, un attentat le 14 novembre 1921 fit sauter les chandeliers, les degrés de marbre de l'autel, les vitres des églises, mais le portrait de Notre-Dame de Guadeloupe ne bougea pas. Et maintenant, ce tableau de la Sainte Vierge est à 10 mètres au-dessus du sol pour pas que les gens fassent des bêtises. Donc il est suspendu à 10 mètres au-dessus du sol et les gens peuvent le voir parce qu'il y a comme une sorte de plancher roulant. C'est pas un escalier roulant, mais un plancher roulant. Un peu paraît-il comme il y a eu au moment de l'ascension du Saint-Suaire à Turin. Et donc, on ne peut pas s'attarder parce que le plancher roulant va assez vite. Et donc, les gens peuvent regarder comme ça le portrait et puis un autre plancher roulant les ramène à leur lieu de départ. Au moins, ça conserve, parce que j'ai oublié de vous dire qu'il y a eu cinq basiliques qui ont été construites. La dernière a été construite en 1976 et elle est immense. Non seulement, bon, elle a 5000 personnes chaque dimanche, minimum, elle peut en contenir 10 000. Et sur le parvis, 100 000 personnes peuvent venir prier. La plupart des Mexicains, le parvis est immense, et la plupart des Mexicains font tout le parvis à genoux, les paumes ouvertes, en signe d'offrande et de sacrifice à la Sainte Vierge. Alors, petit B, donc petit A, c'était le tissu inaltéré du poncho. Petit B, l'image n'est pas peinte. En effet, en 1979, le portrait, l'image de Guadeloupe, a été examiné non seulement au microscope, mais également au rayon infrarouge par les professeurs Philippe Cerna Callahan et Brent Smith. Qui étaient Smith et Callahan? Ils faisaient partie de l'équipe de scientifiques de la NASA qui ont étudié le linceul de Turin. Et c'est pas n'importe qui. Smith était professeur assistant de philosophie et religion au Pensacola Junior College en Floride. et Master of Arts de l'Université de Miami, et Callahan, biophysicien de l'Université de Floride, docteur en philosophie de l'Université du Kansas et expert en peinture. Et donc, tous les deux ont prouvé qu'il n'y avait ni peinture, ni photographie imprimée sur le tissu. Il n'y a strictement rien. Il n'y a pas d'enduit. Or, sur un tissu comme cela, comment peindre quelque chose sans enduit? D'autre part, on a eu beau, non seulement encore une fois par le microscope et par les rayons infrarouges, et puis ensuite par d'autres méthodes scientifiques encore plus poussées, étudier ce portrait, on s'est aperçu que non seulement il n'y avait aucune peinture, mais que les pigments colorés qui existent sont d'origine inconnue, totalement inconnue. Ces pigments ne sont ni d'origine minérale, ni végétale, ni humaine, ni rien du tout. Et surnaturel. De même que les couleurs, je vous rappelle, les couleurs des fleurs et du gazon, de la prairie, où étaient les fleurs, étaient également surnaturelles. Ils ne viennent pas de notre terre, comme l'a prouvé le chimiste Richard Kuhn, qui est prix Nobel de chimie en 1938. Les couleurs, en plus, restent aussi intenses qu'au premier jour. Et, chose très curieuse, contrairement à la plupart des portraits que l'on peut voir, les couleurs sont intenses vues de loin et ternes vues de près. C'est très curieux. D'autre part, que voit-on? Que le tableau semble changer de taille et de coloration, comme je vous le disais, mais même de taille, selon la distance à laquelle on le contemple, et que les couleurs émettent de la lumière. Les couleurs émettent de la lumière. L'image irradie de la lumière qui émane d'elle continuellement. Et cette lumière provient surtout de la partie centrale de la Sainte Vierge. Alors j'en arrive au fœtus lumineux. Plusieurs personnes, dont moi naturellement, ont été émerveillées par le fœtus lumineux, mais ne savaient peut-être pas que depuis 1531, il y avait une lumière beaucoup plus forte à l'endroit où se trouve le cœur de l'enfant Jésus dans le sein de sa mère, de l'enfant Jésus embryon dans le sein de sa mère. C'est donc pas seulement que la... Je veux dire, on savait qu'il y avait une lumière plus forte à cet endroit-là. Donc, quel est le miracle qui s'est passé le 24 avril? Ce n'est pas tant celui de la lumière provenant de la Sainte Vierge à l'endroit où est le cœur, en plus, de notre Seigneur. Un cœur dont on a su, là encore par un appareil, un stéthoscope extrêmement perfectionné, qu'il battait de 110 à 120 pulsations par minute. Il bat toujours le cœur de l'enfant Jésus. 500 ans après, il continue à battre. Eh bien, quel est donc ce miracle? Le miracle n'est pas tant celui de la lumière, puisque depuis 1531, à cet endroit où est le cœur de l'enfant Jésus dans le sein de sa mère, il y avait déjà une lumière beaucoup plus intense encore que sur tous les vêtements. Quel est le miracle? Le miracle, c'est l'embryon lumineux. Je m'explique. Le 24 avril 2007, donc il n'y a pas longtemps, le 24 avril 2007, à la fin de la messe célébrée pour les enfants martyrs de l'avortement, l'assistance de la basilique se demandait ce qu'attendait d'elle la Sainte Vierge, parce que le conseil municipal de Mexico avait la veille autorisé l'avortement jusqu'à 12 semaines de grossesse, hélas comme en France. Mais seul le conseil municipal de Mexico a autorisé cela. Dans le reste du Mexique, c'est moins. Alors que s'est-il passé? Beaucoup de fidèles, étant là, ont pris des photographies du portrait de la Sainte Vierge sur le poncho. Et l'image s'est légèrement effacée pour laisser place à une lumière intense, donc qui émanait du ventre de la Sainte Vierge. Et cette lumière, et c'est cela surtout qui est extraordinaire, a eu un halo qui a la forme d'un embryon. Avec un cadrage et un grossissement important, on voit que la lumière provient réellement du ventre du portrait de la Sainte Vierge. Et l'ingénieur, Louis Giraud, qui a étudié ce halo, a confirmé l'authenticité du négatif, et a pu préciser qu'il n'avait été ni modifié ni altéré, que le halo ne provient d'aucun reflet mais sort de l'intérieur. La lumière produite est très blanche, on le voit ici, pure et intense, différente des lueurs photographiques produites par les flashs. Cette lumière, entourée d'un halo, paraît flotter à l'intérieur de l'abdomen de la Sainte Vierge. Excusez-moi, mais comme dans un placenta, incroyable. Ce halo possède la forme et les mesures d'un embryon. Ce miracle s'est produit devant plus d'un millier de pèlerins et a duré une heure pendant la messe qui a suivi. Je précise cela parce qu'il y a des gens qui croient que ça dure encore. Non, ça s'est arrêté au bout d'une heure. Et cela confirme, d'une certaine façon, ce qu'un gynécologue avait découvert, donc en posant son stéthoscope, comme je vous l'ai dit, à l'endroit de l'embryo, quand il a entendu le bruit des battements du cœur de Jésus. C'est bien là qu'est notre Seigneur. Et en plus, en particulier, son cœur. Et ce halo lumineux de l'enfant Jésus dans le sein de sa mère, naturellement, que c'est pour nous montrer que la vie est sacrée dès la conception, mais aussi, cela illustre le psaume 139 qui dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Quand je n'étais qu'un embryon, tes yeux me regardaient. » Et le Talmud, non pas que je sois une fanatique du Talmud, mais le Talmud a dit « Les embryons eux-mêmes chantent la gloire de Dieu. » Et la mère de Dieu reflète par ce halo lumineux le rayonnement de son fils qui dit de lui-même « Je suis la lumière du monde ». C'est dans Saint Jean chapitre 8, verset 12. « Celui qui me suit aura la lumière de la vie, ne marchera pas dans les ténèbres. » Donc, je vous parlais de ce miracle dans le miracle, si on peut dire. Mais d'autre part, il faut savoir que ce portrait est calculé, enfin je veux dire que si on veut le calculer mathématiquement, que voit-on? On voit qu'il est dessiné, suivant, si on peut appeler cela dessiné, suivant le nombre d'or, sous-jacent la plupart des œuvres d'art, le Parthénon, enfin toutes les œuvres d'art. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on retrouve le nombre d'or dans l'organisation de la matière, la disposition des atomes dans les divers composés chimiques, dans la forme des cristaux de différents minéraux, ce nombre est au cœur de toute harmonie. Ce nombre d'or est sous-jacent à tout l'univers. Et la Sainte Vierge est la reine de l'univers. Alors, j'en arrive à une autre preuve absolument extraordinaire. C'est le fait que les yeux de la Sainte Vierge sont vivants. Alors, voici la chronologie des découvertes scientifiques. En 1929, Alfonso Marque González, le photographe officiel de la basilique de Guadeloupe, découvre avec une loupe l'image d'un homme barbu se reflétant dans l'œil droit de la Sainte Vierge. Mais craignant les persécutions religieuses, car le Mexique était gouverné alors par des francs-maçons, les autorités religieuses lui disent de garder le silence. Puis, le 29 mai 1951, un dessinateur, Carlos Salinas Chavez, découvrait à son tour sur photo, avec une loupe à fort grossissement, qu'il y avait un homme barbu, le même homme barbu que Marque González avait vu, qu'il y avait un homme barbu non seulement dans l'œil droit de la Sainte Vierge, mais aussi dans l'œil gauche. Bon, sa loupe était plus importante en 1951 que celle de 1929. Puis, le 27 mars 1956, l'ophtalmologue, le docteur Javier Toroela Bueno, certifiait que l'œil de la Sainte Vierge était vivant. En effet, sa pupille se ferme et se dilate. Et il remarquait la présence d'un triple reflet analysé par les lois d'optique de Sanson et Purkinje, appelé ainsi car cette loi fut découverte à peu près en même temps par ces deux savants qui n'étaient pas au courant des travaux l'un de l'autre. Ils découvrirent le docteur Purkinje à Breslau, aujourd'hui Froslau et Sanson à Paris. Ils ont publié leurs travaux, l'un en 1832 et le second en 1838, qu'un objet bien éclairé peut se refléter dans l'œil trois fois. La première image la plus externe se localise sur la cornée, l'homme barbu vu dans l'œil de la Sainte Vierge de la tête en haut. La seconde image se trouve sur la face antérieure du cristallin, elle est inversée, l'homme à la tête en bas, et la troisième, sur la face postérieure du cristallin, permet de voir l'image dans le sens normal. Par conséquent, deux reflets suivent le mouvement de l'ophtalmoscope et un reflet suit le sens contraire. Cela n'est possible que pour un œil qui a un relief, qui est concave, qui a une épaisseur en creux et qui est donc vivant. Les yeux morts n'ont pas de reflets. Les reflets n'existent que chez les personnes vivantes et la distorsion des images est en accord avec la courbure de la cornée. Comment voulez-vous que quelqu'un puisse peindre des minuscules personnages dans les yeux de la Sainte Vierge, tellement minuscules qu'on ne pourrait les voir que par des ordinateurs hyper puissants 500 ans plus tard? C'est vraiment extraordinaire. Et en plus, c'est Helmholtz qui a découvert l'existence de reflets dans les yeux, et seulement en 1880. Alors, le 23 juillet 1956, le docteur Torija Lavoignier a confirmé ce qu'avait vu le docteur Toroella Bueno. Et ensuite, 20 ophtalmologues ont confirmé cela, je vous passe leur nom. En février 1979, le docteur José Aspe Tensman, chef du centre scientifique d'IBM, vous savez, les grands ordinateurs, chef du centre scientifique d'IBM à Mexico, découvre, en numérisant par ordinateur la photo des yeux du portrait de la Sainte Vierge, qu'on peut voir sur l'iris des pupilles, qui ont un diamètre de 8 mm, 12 personnages. Là encore, c'est pas pour rien qu'il y a 12 personnages, je le rappelle, les 12 tribus, les 12 apôtres, etc. C'est grâce au procédé de digitalisation, c'est-à-dire d'image agrandie 2000 fois sur une surface de 1 mm carré, divisée en 27 778 carrés, à l'aide d'ordinateurs qui permettent de recomposer les images de la Terre captées par les satellites, qu'on peut voir. Alors là, je cite, « Un Indien en train de déplier son manteau devant un franciscain dont on peut voir une larme glisser sur son visage. » L'Indien est Juan Diego, le franciscain qui pleure est Juan de Zumarraga, l'évêque. Un homme du pays très jeune, la main sur la barbe avec un air de stupéfaction. Un Indien torse nu, les Indiens à l'époque, les Aztèques étaient habillés souvent en torse nu. Torse nu dans une attitude de prière. Une femme aux cheveux crépus, probablement une noire. Effectivement, on sait que Juan de Zumarraga avait une servante noire, puisque dans son testament, il a accordé la liberté à cet esclave noir, parce que Cortés avait emmené quelques esclaves noirs pour servir justement de serviteur aux conquistadors espagnols. Donc, vous voyez, on voit cette servante de l'évêque, on voit une femme aux cheveux crépus, et puis on voit un homme, une femme, et des enfants aux cheveux très ras, et d'autres religieux en habit de franciscain. Le fait qu'il y ait un homme, une femme et des enfants, et la femme, elle avait un enfant sur le dos, vous savez, comme les Mexicains, les Péruviens, etc. Et même d'ailleurs les Africains. Qu'est-ce que c'est un homme, une femme, des enfants, sinon une famille? Là encore, la Sainte Vierge est appelée la patronne aussi des enfants à naître, la protectrice des familles. Et d'autre part, en agrandissant l'iris de l'évêque Juan de Zumarraga, que l'on voit dans l'iris de la Sainte Vierge, soit un agrandissement 2500 fois plus grand que pour l'iris de la Sainte Vierge, que voit-on? On aperçoit Juan Diego montrant son pancho avec l'image de Notre-Dame. Alors, Tensman écrit, « Au moment où Juan Diego fut reçu, la Vierge Marie était présente, invisible aux yeux de ceux qui étaient là, mais voyant elle-même toute la scène, et de ce fait, recevant dans ses yeux les images reflétées de tous les assistants, y compris Juan Diego lui-même. » Sinon, on expliquerait, parce que je veux dire, si la Sainte Vierge, qui est donc imprimée sur le poncho de Juan Diego, il ne devrait y avoir que les gens qui sont dans la salle. Or là, on voit aussi Juan Diego. Donc la Sainte Vierge, on est bien obligé d'admettre qu'elle était présente. Et c'est parce qu'elle était présente, sans doute, que les fleurs se sont transformées en son portrait. Donc, lorsqu'il déploya la tilma, c'est-à-dire la tunique en nahuatl, le poncho, et que les fleurs tombèrent, l'image de Notre-Dame s'imprima sur elle, tel qu'elle était à cet instant-là, c'est-à-dire portant dans ses yeux le reflet de tout le groupe de personnes qui observaient cet événement historique. Et enfin, pour en finir avec ce miracle des yeux vivants, en 1991, le docteur Jorge Escalante Padilla constata la présence du réseau veineux sur les paupières, surtout la paupière supérieure de l'œil droit et de la cornée des yeux de Notre-Dame de Guadeloupe. Et un réseau veineux qui vit toujours, là encore, qui bouge, quoi, comme un vrai réseau veineux, enfin un réseau veineux d'être vivant. Donc ce qui est magnifique, c'est que non seulement les yeux de la Sainte Vierge sont vivants, mais qu'elle est elle-même vivante. Alors nous savons naturellement qu'elle est vivante au ciel, mais nous pouvons nous dire qu'elle est également vivante sur terre, et en particulier à Guadeloupe. Elle est vivante dans son portrait, ainsi que son enfant, dont le cœur continue à battre toujours. Et c'est vraiment extraordinaire. Alors j'en arrive à la troisième partie, l'interdépendance des symboles, pour unir les Aztèques et les Espagnols. Mais c'est une interdépendance extraordinaire, comme vous allez le voir. Je vous ai parlé, donc je ne reviens pas, du nom de Guadeloupe, à la fois nahuatl et espagnol. Ensuite, autre interdépendance des symboles, c'est le manteau. Parce que le manteau est d'un bleu turquoise. Or, ce bleu, on le trouve sur les fresques mayas primitives. Mais alors que le bleu de ces fresques se fane avec le temps et la chaleur, le bleu du manteau de la Sainte Vierge est d'une intensité égale, non fanée, et d'un pigment bleu à demi transparent inconnu, comme tous les autres pigments du portrait, aussi brillant que s'il avait été posé la semaine dernière, écrit en 1979, Philippe Cernat Callahan, que nous avons vu tout à l'heure. De même pour l'éclat et la fraîcheur du rose de la robe. Alors, il se passe aussi quelque chose d'extraordinaire à propos des broderies de la robe rose de la Sainte Vierge. Parce que les dessins de ces broderies correspondent aux symboles qu'utilisent les Aztèques. Il s'agit d'un message, d'une sorte de rébus que seuls les Aztèques comprenaient. Tout d'abord, le nœud noir de la ceinture. Vous voyez, elle a un nœud noir juste au-dessus du ventre. Ce nœud noir forme un triangle sombre. La pointe vers le haut, semblable à ceux que l'on peut voir sur différentes sculptures mexicaines et sur le calendrier aztèque. Ces deux parties inférieures se terminent par des plis qui rappellent les pieds d'un vase de style aztèque. Ensuite, on découvre la topographie, c'est-à-dire la carte du Mexique sur la robe de la Sainte Vierge. D'autre part, la Sainte Vierge a une broche qui ferme en haut donc sa robe. Et sur cette broche qui ferme l'encolure, il y a la même croix que celle qui figure sur la voile des bateaux espagnols de Cortés et que portaient les missionnaires. Vous voyez, toujours ce mélange de ce qu'il y a de bon chez les Aztèques, c'est-à-dire leur symbole et non pas les sacrifices sanguinaires, et également ce qu'il y a de bon chez les Espagnols. Enfin, il y a un signe absolument extraordinaire qui s'appelle le signe Nahui Olin. C'est juste sous la ceinture de la Sainte Vierge, sur son ventre. Qu'est-ce que c'est que ce Nahui Olin? C'est une fleur de feu, une fleur rouge de 4 pétales autour d'un petit rond central. Et ce quinconce s'identifie au Nahui Olin, c'était le grand symbole des Aztèques, qui était le centre du monde. Et cette fleur, donc, figure au centre du calendrier solaire des Aztèques et représente le point de contact de la terre et du ciel, de notre monde et de l'au-delà. Et cette fleur ne se trouve qu'une seule fois sur la tunique, à l'endroit de l'embryon que la Sainte Vierge porte en elle. Or, qu'est-ce que le centre du monde pour nous, sinon Jésus, qui est le roi du monde, l'enfant divin, le soleil de justice? C'est la seule fleur, donc, qui se trouve sur la tunique, comme cette fleur rouge, là, ce symbole solaire, mais il y a 9 autres fleurs qui symbolisent les montagnes du Mexique, et au milieu de ces fleurs se trouvent 8 iris qui représentent Vénus, symbole de la mort et de la renaissance. Enfin, les étoiles du manteau, voyez, les 46 étoiles qui sont sur le manteau bleu de la Sainte Vierge, correspondent aux constellations du ciel à 10h26 du matin, au moment exact du solstice d'hiver du 12 décembre 1531, au moment où l'image de la Sainte Vierge est imprimée sur le poncho de Juan Diego. Pourquoi le solstice d'hiver? parce que les Aztèques craignaient que le soleil finisse par s'éteindre. C'est bien pourquoi ils offraient des sacrifices. Mais ça s'est arrêté, heureusement, avec l'arrivée de Cortés et des franciscains. Donc les Aztèques craignaient que le soleil finisse par s'éteindre, puisqu'ils voyaient que les jours étaient de plus en plus courts. Et à partir du solstice, la lumière du soleil revient peu à peu. Et d'ailleurs, si le Christ a choisi de naître le 25 décembre, c'est aussi pour cette idée que le Christ est la lumière du monde qui vient au milieu de la nuit. C'est aussi pour ça qu'il revient à minuit et il vient au milieu de l'hiver. Donc, les chercheurs se sont dit, puisque les broderies de la tunique sont une carte du Mexique, les étoiles du manteau sont peut-être le reflet, la projection de celles qui se trouvaient le 12 décembre 1531 au-dessus de Mexico et au-dessus de la tête de la Sainte Vierge. La couronne qu'on voit au-dessus de la tête de la Sainte Vierge n'était pas sur l'apparition. Vous voyez, là, il n'y a pas de couronne. Il n'y en a pas. C'est Léon XIII qui a fait couronner, Léon XIII, le pape du Rosaire, qui a fait couronner Notre-Dame de Guadalupe le 12 octobre 1895. Mais c'est donc une couronne qui ne date pas de 1531, qui n'est pas sur le portrait lui-même. Donc, avec les planétariums actuels, on peut reconstituer le ciel tel qu'il était en n'importe quel endroit de la Terre et à n'importe quelle époque. C'est le docteur Armando Garcia de León, du département des éphémérides, c'est-à-dire des étoiles très rapides et très petites, du département des éphémérides de l'Université nationale autonome de Mexico, qui a reconstitué le ciel tel qu'il était au-dessus de Mexico en ce 12 décembre 1531. Et il a eu recours au planétarium Spitz Junior, construit par Harmonic Reef Corporation, un planétarium construit par les Américains, qui se trouve à l'observatoire La Place de Mexico. Et qu'a-t-on vu? Que ces étoiles sont disposées sur le manteau de la Vierge, comme si elles s'étaient tournées à ce moment-là vers l'ouest. Les constellations qui étaient alors au nord figurent sur le côté droit de son manteau, donc à gauche pour nous, observateurs. Les étoiles qui étaient au sud se trouvent sur le côté gauche de son manteau, donc à droite pour nous, observateurs. Et les étoiles du manteau de la Vierge reflètent le ciel et sont vues du ciel et non de la terre. On trouve la couronne boréale sur le front de Marie, la constellation de la Vierge sur sa poitrine, la constellation de Lion sur son ventre, avec son étoile principale, Régulus. Or, qu'est-ce que la constellation de Lion en Nahuatl? C'est Nahui-Olin. C'est Nahui-Olin, le centre du monde. Et cette constellation de Lion a donc pour étoile principale Régulus. Qu'est-ce que c'est que Régulus? C'est le petit roi, l'enfant Jésus qui est roi. Et à la hauteur des genoux, il y a le signe des Gémeaux, et sous les pieds au-dessus de l'ange, c'est Orion. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que cette constellation de Lion, qui est appelée en Nahuatl Nahui-Olin, donc le centre du monde, se trouve là où est le cœur du roi du monde, de Dieu amour, de Dieu qui fait se mouvoir le soleil, la terre et les étoiles, comme disait Dante dans son paradis. Alors, j'en arrive à la conclusion. Pourquoi la Sainte Vierge a-t-elle souhaité imprimer son portrait sur le poncho de Juan Diego? De telle sorte qu'il y a non seulement des symboles aztèques qui rejoignent les symboles espagnols, mais aussi des symboles cosmiques, comme les constellations du ciel sur les étoiles de son manteau ou la carte du Mexique sur sa robe. C'est pour nous montrer qu'elle est notre mère, toujours vivante, comme le montre la vie de ses yeux, et la mère de la vie, puisque le cœur de l'enfant Jésus continue toujours à battre 500 ans après. Mais elle est aussi la reine de la terre et du ciel, des anges et des hommes. Il faut se laisser gouverner par elle, conduire par elle, pour avoir part au royaume de Dieu, au royaume de son Fils. Et ce que Notre-Dame de Guadalupe a dit à Juan Diego, elle le dit à chacun de nous. « Je suis votre mère miséricordieuse, la tienne et celle de tous ceux qui vivent unis sur cette terre, et la mère de tous ceux qui, pleins d'amour pour moi, prieront vers moi et mettront leur confiance en moi. » Voilà, je vous remercie beaucoup de votre patience.